Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous tous les samedis et dimanches de 9h à midi avec ce matin Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet, David Douillet et un invité qui vient de nous rejoindre, 64e joueur mondial, joueur de tennis professionnel, c'est Corentin Moutet. Salut Corentin.
Salut, merci pour l'invitation.
Salut Corentin.
Merci d'être avec nous. Rapproche-toi un petit peu plus du micro et c'est parfait, mon cher Corentin. Tu es avec nous. Évidemment, on va parler de ta saison, pas uniquement de ce fait de jeu ou de fin de match, assez rare, mais dans quelques instants, la seconde des GG autour donc de cette altercation avec un joueur, c'était à Orléans cette semaine, une image, je le disais, extrêmement rare. Faut-il pardonner les pétages de plomb? Ce sera notre question. Évidemment, vous aurez certainement, mes GG, des questions à poser à Corentin Moutet. À 10h30, nous parlerons du maillot noir du Danemark pour la Coupe du Monde. Est-ce que c'est symbolique, comme le dit le Danemark, ou totalement démagogique? Vous devrez répondre à cette question. Et puis 11h, le bras de fer des GG sur les engagements politiques des sportifs. Cette semaine, Neymar a apporté son soutien à Jair Bolsonaro avant les élections au Brésil dans quelques jours. Afficher son soutien. Il y aura une team pour, une team contre. En tout cas, Neymar a choisi une chanson pour apporter son soutien à Bolsonaro.
C'est quoi ça? C'est la musique brésilienne?
Oui, oui, c'est la musique
brésilienne. C'est très mauvais.
Alors, c'est très mauvais. Est-ce qu'un soutien à Bolsonaro est très mauvais? On n'est pas là, évidemment, pour faire de la politique. On va redébuter cette nouvelle heure avec un proverbe guadeloupéen. Le pardon ne guérit pas la bosse.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Aïe. Il y a bagarre.
Ça y est, c'est parti.
C'est parti sous nos yeux là en bas.
Calmez-vous un peu.
Non, je me calme pas.
Llorente est allé lui hurler dessus et là Savic ça l'a rendu dingue. Et là il y a des échanges de coups, hein, très clairement.
Je vais péter un coup.
Il y a eu un pain, mais c'est pris un pain, Savic. Ah ouais, c'est parti dans le tunnel, vous ne le voyez pas, mais la bagarre est générale.
Je sais pas ce qu'il cherche là, mais c'est pas bon ça. La bagarre.
C'est électrique!
C'est une scène assez rare en tennis que nous avons vécue cette semaine. Corentin Moutet a eu donc une chaude altercation avec le bulgare Adrian Andreev au deuxième tour du Challenger de l'Open d'Orléans. Le joueur français qui est avec nous dans le studio RMC en est venu aux mains avec son adversaire lors de la poignée de main finale. Les deux joueurs ont dû être séparés par l'arbitre de ce match. Corentin Moutet qui a publié un texte sur Instagram. Corentin, je tiens à ne pas m'excuser pour ce qui est arrivé, ce qui est assez rare. Attention, j'ai relu deux fois pour savoir s'il y avait une erreur. Je tiens à ne pas m'excuser. Quand un joueur se permet de dire « fuck you » à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m'empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce ne sont pas des choses qui se font. Avant d'entendre Corentin, évidemment, sur cette histoire, la musique qui fout les jetons est cette question. Faut-il pardonner les pétages de plomb, mes GG? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Mais oui, bien sûr que oui.
David Douillet.
Eh oui, bien sûr.
J'ose à peine poser la question à Stephen Brun, qui est donc un habitué des pétages de plomb. Stephen Brun.
Oui, il faut tout pardonner.
Tout pardonner, ok. Denis Charvet, les valeurs de rugby.
Une fois, pas deux.
Une fois, pas deux. Très bien, mon cher Denis. Avant de débattre, vous allez nous donner votre point de vue. Corentin Moutet est donc notre invité. Merci une nouvelle fois, Corentin, d'avoir répondu à notre invitation. Que s'est-il passé sur ce court? Parce que, je le disais, c'est une image assez rare. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Bon, En fait, pas grand-chose, à vrai dire. En fait, c'est rare dans le tennis de voir ça, donc forcément, ça fait parler, c'est impressionnant. Mais en vrai, c'est pas passé grand-chose. Le truc, c'est qu'on s'est joué la semaine d'avant à Gênes, en tournoi, où c'était pareil. Bon, il n'y avait pas autant de monde, c'était beaucoup plus discret, mais il m'avait cherché tout le match et tout, et je lui avais demandé ce qu'il cherchait, en fait. S'il était venu là pour jouer ou s'il était venu là pour me perturber et chercher quelque chose que j'ignorais. Et donc ça avait commencé en fait la semaine d'avant. Donc forcément c'est déjà monté en pression et avant de se jouer, on avait déjà un passé assez récent en plus. Même si c'était rien de passé du tout la semaine d'avant, juste il m'avait cherché, je lui ai demandé pourquoi il me cherchait et ça s'était arrêté là. Et puis à ce match là, en vrai, c'était un match c'est un gros match. Enfin, c'est un très bon joueur, il a très bien joué, c'était un très beau match de 3 heures, donc avec beaucoup d'émotions
et de tension
et de fatigue aussi. Et puis en fait, moi j'étais en fait la manière dont ça s'est passé à la fin du match, j'étais surpris, je pense comme tout le monde, de sa réaction à lui. Parce qu'il avait gagné. Donc moi j'étais très frustré de perdre ce dernier point. J'avais juste envie de partir à partir du moment où c'était fini. J'avais envie de lui serrer la main rapidement, serrer la main de l'arbitre, partir. Du coup, comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo que j'ai vue malgré moi.
Et toi t'avais rien contre lui là, on est d'accord?
Si, moi j'apprécie pas la personne, j'apprécie pas la manière dont il se comporte, et pour moi il me respecte pas. Donc pour moi, j'allais faire les choses bien, lui serrer la main, ouais, serrer la main de l'arbitre pour le public, parce que le public était là, avait vu un beau match et que le match était beau. Même si je respecte pas la personne, c'est un très bon joueur, comme je le disais, il joue très bien.
Tu n'y allais pas pour la castagne, si j'ai bien compris.
Bah, à aucun moment. Ouais, j'espère que ça se voit et que ça se voit.
Quand on a livré une bataille comme ça pendant 3 heures, comme tu le disais, face à un adversaire, quand on rentre sur un court, l'adversaire en face, même si on le respecte, on a quand même envie de le battre, pas l'humilier, mais enfin, c'est presque un ennemi au départ. C'est un adversaire, mais un ennemi. Est-ce que c'est facile, justement, une fois que tu as terminé la rencontre, de revenir en arrière et de faire évacuer tous ces sentiments qui peuvent t'assaillir pendant une rencontre?
Ouais, en vrai, c'est super facile parce que la plupart des joueurs que je joue ont du respect pour moi, donc j'ai du respect pour eux. Souvent, ça va dans les deux sens. Et en fait, un match de 3 heures, qu'on le gagne ou qu'on le perde, il y a une forme de respect pour l'adversaire quand il gagne parce qu'il a surmonté des choses qu'on a essayé de surmonter et on n'est pas sorti vainqueur. Donc il y a la déception, mais c'est deux choses différentes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs qui sont sur le circuit parce que je sais ce qu'ils ont fait pour en être là. Parce que j'ai fait les mêmes choses, je sais les sacrifices, les efforts que c'est, je sais ce que ça coûte. Donc tous ceux qui sont là, c'est pas par erreur. Et du coup, j'ai beaucoup de respect envers eux pour ça.
Corentin, est-ce que tu as écouté les déclarations de ses déclarations d'après match? Puisque lui, il a quand même fait une déclaration en conférence de presse en disant que ben il t'accuse un petit peu, quoi. Il dit que c'est de ta faute. Enfin, moi, j'étais très surpris de ça. Alors, je suis pas jugé parti. Enfin, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de recul. Qu'est-ce que t'en penses de ces déclarations?
Bah après, de toute façon, de toute façon, c'est assez subjectif. Hein. Quand on regarde une vidéo, tout le monde va avoir un point de vue différent. J'imagine que lui aussi, après ce qu'il a fait, il va pas dire que c'est de sa faute, parce que pour les suites que ça peut, qu'il peut avoir et tout ça, ça serait un peu bête de sa part. Mais après, s'il pense que c'est de ma faute, je l'entends. C'est son point de vue à lui. Mais en vrai de vrai, moi, je suis allé sur le terrain. J'avais qu'une envie, c'était de partir, en fait, parce que j'étais déçu. Ça fait 2 fois d'affilée que je perds contre lui sur un match très serré. Donc j'étais juste déçu, en fait, j'étais très déçu parce que j'ai vraiment tout donné pendant ce match. J'étais déçu pour mon entraîneur, j'étais déçu pour j'avais envie d'aller plus loin, enfin pour plein de raisons, j'étais déçu. Et du coup, en fait, j'étais surpris de qui viennent comme ça m'agresser au filet alors qu'il avait gagné. J'étais surpris.
Je raconte la scène pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est une poignée de main assez virile, on va dire. Et puis on sent que sur la poignée de main, chose qu'on a peu l'habitude de voir, bah vous êtes torse contre torse parce que il y a tellement d'émotions et de décharges.
En fait, il me tire. Moi, je vais pour lui serrer la main tranquillement et je vois qu'il prend de l'élan pour me serrer la main. Donc à ce moment-là, je comprends plus ou moins. Donc je lui serre la main et je sais que ça va être qu'il va falloir serrer la main parce que apparemment on est parti pour ce genre de poignée. Mais bon, il y a 3000 personnes, je pense, dans la salle. Donc c'est quelque chose où moi, il y a des enfants. Et d'ailleurs, dans mon message que je publie après, ce qui est un peu bête, c'est que bien sûr que je regrette pour les enfants parce que c'est un mauvais exemple et que c'est
un bon exemple.
Et d'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle je regrette, parce que les adultes, ils sont assez grands pour comprendre ces choses-là. Les enfants, non. Donc je regrette juste pour tous les enfants qui étaient là sur le terrain, les ramasseurs, tout ça. Mais bon, bref, en tout cas, il me tire vers lui. Donc je suis surpris. Je suis surpris de ce moment-là.
Ok, surpris de ce moment-là. Corentin Moutet est avec nous dans les grandes gueules du sport. Et puis après, on débattra au-delà de ça sur évidemment, on va pas rester que sur ce cas précis parce que bon, c'est pas non plus très très grave ce qui s'est passé sur ce cours de tennis. Après, et puis on fera connaissance un peu plus avec Corentin. Stephen.
Oui, tu veux que je te dise quoi?
Non, tu voulais prendre la main.
Non, parce que moi je voulais revenir sur le débat.
D'accord.
Je voulais revenir sur le débat. Donc vas-y, Christophe, je vais pas faire une interview de Corentin.
Non, moi je voulais poser une question à Corentin. Corentin, c'est la première fois que tu te bagarre sur un terrain, mais tu es quand même assez coutumier du fait des pétages de plomb. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'aujourd'hui tes adversaires vont essayer de profiter de ta faculté à t'énerver assez rapidement pour essayer justement de te faire dégoupiller et pour remporter les matchs? Je lisais une interview de ton ancien entraîneur il y a quelques semaines où il disait
très Corentin, mauvaise interview d'ailleurs, si je peux me permettre.
Tu l'as trouvé très mauvaise? Vous parlez plus depuis?
Si, non, mais je l'aime beaucoup, c'est une personne que j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé ça très déplacé de sa part.
Voilà, donc il raconte que t'as toujours pas réussi à passer le cap, le petit déclic. comme a réussi à le faire Roger Federer, par exemple, lorsqu'il était jeune, où effectivement, il pétait les plombs, et après, il est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Est-ce que tu as l'envie, et est-ce que tu sens que c'est quand même un point faible chez toi?
Bon alors, je vais pas faire de comparaison à Roger, parce que je pense que si on se compare tous à Roger ou les meilleures personnes dans notre sport, on est tous ridicules.
Ouais. En tout cas, nous, on te souhaite la même carrière.
Dans le fait que, si tu veux, il était comme ça au début de carrière. Quoi.
Oui, très bien. Non, mais après, sur le fait qu'il y a des déclics, moi, je crois pas trop aux déclics. Je pense que toutes les progressions dans tous les domaines, elles se font assez progressivement. Il n'y a pas de jour et nuit comme ça, du jour au lendemain. Et je pense aussi que, moi, il m'entraînait quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. J'étais 700e junior, aujourd'hui je suis 65 ATP, donc je pense qu'il y a eu quand même une progression là-dessus, tennistique, il y a eu beaucoup de travail, et du coup c'est pour ça que son interview m'a un peu blessé, c'est que je trouve que on peut pas décrédibiliser en fait le travail, les gens autour qui travaillent aussi pour me faire progresser, et la progression qui est là en fait, qui est là dans le classement, dans le niveau, dans tout. En fait, et je trouve ça assez décrédibilisant. Et de sa part, pour m'avoir entraîné, je trouvais ça un peu déplacé, sachant que c'est clair quoi qu'il y a eu des progrès. Après,
mais chez toi, c'était réducteur en tout cas. C'est ce que tu voulais dire. On va avancer sur ce débat, les ouais. copains, et peut-être que aussi Corentin pourra nous apporter de l'eau au moulin sur notre débat sur les pétages de plomb qui peuvent arriver. C'est la vie aussi d'un sportif de haut niveau. Donc forcément, je me tourne vers toi, Stéphane.
Ouais, en fait. Alors bien sûr que l'image elle est pas bonne pour le tennis, l'image elle est pas bonne pour les deux joueurs. Maintenant le tennis c'est quand même un sport ultra particulier, c'est que tu joues un mec pendant 2, 3, 4, 5 heures avec de la tension, avec de la pression, avec des émotions. Tu vois nos sports rugby, basket, foot, tu t'embrouilles avec un mec, tu peux le chicoter parce qu'il y a des contacts physiques, tu peux lui mettre 2, 3 pralines. La frustration au tennis, elle est dure à gérer. Et c'est pour ça que vous parlez de Federer, ouais, Federer, Nadal, les mecs ils jouent 5 heures, ils ont pas une émotion. Enfin ils sont numéro 1, ils ont gagné 20 grand chelem, donc c'est des mutants. Aujourd'hui, chacun est fait différemment, avec des émotions, avec des caractères différents, et gère à sa façon les émotions. Moi, j'ai vu des pétages de plomb, on en parle parce que c'est Corentin Moutet, parce qu'il est français, et parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a que ça à se mettre sous la dent sportivement pour le tennis français, parce qu'en grand chelem, les Gaël et tout ça sont tous partis, donc on aspire souvent à des deuxièmes semaines qui sont pas là. Moi, j'ai vu Medvedev péter les plombs à l'Open d'Australie en janvier, on lui a pardonné. J'ai vu Zverev, et je trouve qu'on lui a pardonné très vite, et que l'ATP lui a mis 2 mois de sursis à Zverev,
qui était à deux doigts
de fracasser un arbitre avec sa raquette à Acapulco. Je trouve bien plus grave qu'une pseudo-bagarre à l'Open d'Orléans. J'ai l'impression qu'on pardonne aussi tous les excès à Nick Kyrgios. Pourquoi on leur pardonne tout ça?
Pardonnait aussi à McEnroe à l'époque.
Mais pourquoi?
Parce que les mecs qui gagnent des tournois, parce que les mecs
sont top 20, parce que c'est des stars, et je trouve que l'ATP a été très conciliante avec Zverev.
Dans le cas de Corentin, on n'a pas lui pardonné. Il a parlé de pardon, il n'a rien fait de mal.
On en a fait tout un pataquès.
J'aimerais avoir ton regard, et après on va aller voir David, ton regard sur ce que vient de dire Stephen. Est-ce qu'il y a un peu un deux poids deux mesures, et c'est plus facile de pardonner quand les mecs gagnent, quoi, en gros.
Ouais, non, mais de toute façon, je l'ai toujours dit, le jour où, si jamais un jour je suis numéro 1 mondial, ou si un jour je gagne un grand chelem, j'aurais beau me comporter de la pire façon sur le terrain, les gens l'accepteront. Et si jamais je suis 200e mondial et que je me comporte très bien, les gens me regarderont pas de toute façon. Exactement. Donc en fait, c'est qu'une question. Les gens ne s'intéressent qu'au résultat.
C'est le regard.
En fait, c'est que ça. Professionnellement, c'est si tu réussis, si tu gagnes des matchs, t'es nul. Si jamais t'en gagnes pas, c'est
la loi aussi.
C'est un peu comme ça. C'est la loi du sport.
Mais oui.
Mais je pense qu'on peut être fier de soi même quand on perd. Je pense qu'on peut être fier de soi même quand on se comporte mal parfois parce qu'on a des émotions. Je pense qu'on peut être fier de soi en fait parce que c'est beaucoup d'efforts pour être ici de toute façon. Et que
oui, mais
évidemment que ça pardonne pas tout et qu'on a on doit se comporter d'une certaine façon pour donner l'exemple et pour nous-mêmes en fait pour se respecter nous-mêmes. Mais en fait je pense que on est facilement condamnable comme tu disais. Je sais pas si c'est parce qu'on est français ou si c'est parce que et puis. Ça fait parler aussi parce que le tennis c'est un sport super lisse parce qu'on a le droit de rien faire sur un terrain.
Mais...
et du coup en fait quand on voit quelque chose comme ça les gens en fait ce qui est très bizarre pour être au cœur du truc ce qui est très bizarre c'est que d'un côté les gens sont contents de voir ça parce que ça enlève ce sport lisse et d'un autre côté ils veulent te punir pour ça mais les gens ils relaient les vidéos. Moi Eurosport je sais pas si j'ai le droit de le citer ici.
Si tu le fais évidemment.
non mais tout le monde a relayé la vidéo.
Ouais.
Donc ça fait un peu la pub de ce sport. Ah c'est pas si lisse, c'est pas mal et en même temps, il y a pas le droit de faire ça.
Oui, mais et puis on va s'entendre. Attends, Denis, je te dis, David, on l'a pas entendu depuis 20 minutes, au moins qu'on échange tous.
Nous a dit, on ne veut pas parler. Nous a dit.
Moi, Jacques Amambert, David.
Ah, la pub. Non mais tu.
Oui, je l'ai fini aussi.
Tu as raison. Et on rappelle. Regardez la vidéo. C'est pas grave.
Moi, je me bats avec une babola dans les mains. Je t'annonce que le mec, sa tête, elle passe à travers le corps.
Je voulais rebondir. C'est pour ça.
Oui, mais tu rebondiras juste après. David Douillet.
Tu peux rebondir sur David, par contre.
Là, on est en train de parler d'une tempête dans un verre d'eau. Enfin, c'est.
C'est le problème du tennis.
Ouais, mais c'est dingue parce que on est dans une ère de la polémique, du truc. Dès qu'il y a une mouche qui pète, ça y est, ça devient un truc de fou. Moi, je trouve que les gens sont, enfin, toutes celles et ceux qui relaient ça ne connaissent pas le haut niveau, ne connaissent pas le sport. Et en particulier le tennis qui, quand tu fais du rugby, du judo, du basket, t'es en contact avec le bonhomme. Là, tu l'as devant toi, tu peux pas le toucher, etc. Le seul moment où tu le touches, c'est à la fin.
C'est pour lui dire bravo alors t'as perdu. Gros.
Voilà. Et en plus, voilà. Donc tu le contiens. Et puis si tu mets ta rage dans un coup, eh ben 9 fois sur 10, il est dans le filet. Tu vois. Donc c'est très compliqué de conserver
David, toi,
cette énergie.
Quand t'étais sur un tatami, que t'étais battu, ça t'est rarement arrivé, mais que ton combattant, ton adversaire, t'avais un peu manqué de respect pendant le combat, t'as jamais eu envie de le prendre et de lui faire une
planche. Tu sais pourquoi? Parce que, gamin, mais je vais t'expliquer un truc. Alors, peut-être ça va parler à Corentin, mais je veux pas être le donneur de leçons de service, mais moi, j'avais remarqué ça, qu'il y avait des adversaires qui te poussaient à bout, qui te faisaient des saloperies sous le kimono, etc., etc., et pour te faire péter les plombs et en réalité mieux te battre. J'avais appris un truc très tôt. Je me suis mis à apprécier et adorer tous mes adversaires, même ceux qui en dehors du tatami je pouvais pas voir. Non mais vraiment, pourquoi? Non mais très sincèrement, je te jure, c'est un super truc. Tu aimes ton adversaire parce que il te pousse dans tes derniers retranchements pour te sublimer, et tu l'aimes que pour ça. Voilà. Et quand tu joues, et quand tu l'as dans le kimono, tu es dans cette configuration mentale là, ce qui fait que il peut faire ce que tu veux. Tu pètes jamais les plombs parce que, en réalité, tu dis, waouh, bah, ok, il me challenge, je vais aller plus haut que lui, je vais faire mieux que lui, toi. Et là, t'es dans un truc qui te tire vers le haut, plutôt que d'être dans un truc qui te tire vers le bas avec de la haine, de la frustration, du truc, machin, du truc. Mais enfin, c'est un truc qui est particulier, qui est propre à soi-même. Voilà.
Oui, mais malgré tout, c'est une astuce psychologique, mais c'est intéressant.
Non, mais on parle d'une chose essentielle, que dans tous les sports, on est confronté à la provocation.
Mais ce que je voulais dire.
Que ce soit le rugby, le judo, le tennis. Et à partir du moment où tu as la provocation, ou soit tu y réponds, soit tu y réponds pas.
Oui, mais tu peux y répondre sur un terrain de rugby, pas sur un terrain de tennis.
Et David, vas-y, finis.
Non, mais je vais au bout du raisonnement. C'est pour ça que je veux rebondir, parce que je pense que la référence Federer, elle est importante de la citer. Je le pense vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer à Federer, c'est ridicule. Tu as raison, Corentin. Mais après, Federer, quand tu vois son cheminement, alors c'est pas pour. Tout le monde ne va pas redevenir numéro mondial. Mais quand tu vois son jeu et son caractère à 15 ans, tu te dis, mais comment ce mec a fait pour devenir ce qu'il a été. Et moi, je suis bluffé par ça. Beaucoup plus que par ce qu'il a été sur un terrain. Parce que je me dis, mais quand même, il part d'où? Comment ce mec a pu se contrôler, s'auto-contrôler et arriver dans la dimension où il est arrivé? Mais en faisant quel travail, j'en sais rien, je te dis pas ça. Et ma question pour toi, Corentin, c'est est-ce que, j'imagine que tu es dans une réflexion par rapport à ton comportement, j'imagine que tu dois, je sais pas moi, être suivi ou peut-être parler avec des coachs. Non. Non, mais j'en sais rien, c'est pour ça que ma question. Est-ce que aujourd'hui t'es conscient que
est-ce que c'est un axe de travail?
Voilà, exactement. En gros, c'est ça. Pour moi,
c'est un axe de travail comme tout. En vrai de vrai, hein, c'est un axe de travail pour comme tout, comme les coups, comme le physique, comme je me réveille tous les jours pour travailler et améliorer mon jeu. Donc ça en fait partie, bien sûr. Ce serait mentir de dire que ça en fait pas partie. Mais pour moi, c'est des points faibles. En fait, les gens pointent souvent ça parce que c'est visible. Mais moi, quand je m'énerve. J'en ai gagné des milliers des matchs en m'énervant. C'est ça qui me pousse, c'est ça qui me stimule aussi.
Oui, mais est-ce que tu pourrais pas en gagner autant sans t'énerver? Ça, ma question, c'est plus ça, si tu veux. Ma question, elle est là.
J'en sais rien, mais est-ce que Roger va faire la même carrière en restant nerveux? On n'en sait rien non plus.
Eh ben oui, mais t'as vu la carrière qu'il fait derrière.
Denis, moi pour avoir été dans beaucoup de situations similaires à Corentin, j'étais meilleur quand j'avais me prenais la tête avec.
Quand t'avais vu rouge quoi.
Mais quand j'étais tout calme, j'étais pas bon. J'avais besoin de trouver un arbitre, d'envoyer chier un arbitre ou mon coach pour me mettre dans le match.
Oui mais
et après les gens sont comme ça. Ça fait partie de.
Oui, ouais, il y a des gens qui
sont tout le monde différent.
Tu peux progresser.
On est d'accord.
Tu peux progresser. Tu peux de temps en temps essayer de. Je sais pas. Moi j'ai vu des psychologues du sport qui m'ont dit raconte-moi ta vie, respire. Bon j'ai fait 3 séances. Basta. Mais ça fait partie de chaque.
Non mais chaque. nourrit du conflit. Je suis d'accord avec toi. Plein d'athlètes se nourrissent du conflit. On en a besoin. Mais c'est pas pour cela que c'est une réalité.
C'est pas une règle.
Bon, non, exactement. C'est pas une règle.
Ouais. Je vais savoir, Quentin, parce que moi.
Alors, tu sais quoi? On va marquer une courte pause, parce que je sais que vous avez plein de questions.
Faut payer ton salaire.
Bah, ouais, mon pote. Okay. Bien sûr. On va marquer une courte pause. Et après, je sais que David voulait aussi nous apporter quelque chose et nous dire et finir ce qu'il essayait de nous dire. L'abbé Douillet, en tout cas, aime ton adversaire. Ça, je retiens ça de la part de David pour Corentin. Et on se retrouve dans quelques instants avec Corentin Moutet, qui est notre invité. A tout de suite sur RMC.
Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, David Douillet, Denis Charvet, Stephen Brun et notre invité Corentin Moutet. On poursuit la conversation dans quelques instants sur, évidemment, cette altercation qui a eu lieu cette semaine. Vous avez certainement vu les images, mais aussi sur cette saison que l'on débriefe avec toi dans quelques instants. Sachez que dans 10 minutes, le zapping des GG avec le titre de Verstappen, notamment, qui pourrait être en danger, le titre de la saison dernière. Ouh, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Vous me direz ça dans quelques instants. Peut-être que je vous reproposerai l'OM. Je sais pas si vous savez changer d'avis. Ça, c'est dans 10 minutes. Corentin Moutet est donc toujours avec nous autour de ce débat. Faut-il pardonner les pétages de plomb? Vous êtes plutôt d'accord dans le studio RMC pour dire oui, on pardonne. David Douillet, tu poursuis la discussion car tu voulais ajouter quelque chose il y a quelques instants. David.
Je voulais dire que tout ça était très humain et heureusement qu'on a ça. Je ne vais pas dire qu'heureusement qu'on a les pétages de plomb, mais voilà, on n'est pas des robots et on est. Faut comprendre ce qu'est une compétition de haut niveau. Il y a une pression, la pression de l'enjeu. Il y a des choses qu'on réussit, des choses qu'on rate, etc., etc. Et souvent, on est en colère contre qui? Contre soi-même, en vérité. Et quelquefois, ça réagit autrement. Surtout quand on vient vous chercher, quand l'adversaire trouve le petit chemin qui vous amène jusqu'au pétage de plomb. Voilà. Et ça doit être compris de tout le monde. Ok, c'est pas la belle image pour les gamins, etc., etc., mais on n'est que des femmes et des hommes avec nos défauts et nos qualités et c'est la vie et c'est comme ça. Donc on doit pardonner surtout à des gens qui sont généreux pour vous montrer de belles choses dans leur art, que ce soit le tennis ou autre chose.
T'es pas obligé de pardonner à tout le monde, je suis désolé David. Il y a des pétages de plomb, t'es pas obligé de pardonner. C'est trop.
Zidane, vous lui avez tous pardonné.
Non, mais c'est trop facile ce que tu dis.
Zidane, vous lui avez tous pardonné.
Dans la minute.
C'est vrai que c'est humain, c'est vrai que c'est des rapports avec soi-même, on est d'accord, tout ce que tu dis, on est d'accord. Mais après, moi, je reviens à la provocation. C'est le contrôle aussi, t'es obligé de faire face à une provocation de tout moment.
Corentin, on parle et on l'a dit de quelque chose qui, au final, n'est pas grand-chose. Est-ce que tu as peur ou pas du tout, que cette image reste pour toi et qu'on reste centré là-dessus en se disant « Ah oui, Corentin Moutet, je m'en souviens. » Est-ce que c'est un truc où tu y penses ou pas du tout?
Bon, en fait, s'ils restent bloqués là-dessus, c'est qu'ils vont rater le plus important, en fait. Je pense que c'est vraiment... Il n'y a rien à manger là-dedans, en fait.
Il n'y a rien eu.
Il ne s'est rien passé. Il m'a insulté, on s'est un peu tiré. Enfin, c'est passé une vraie bagarre, en vrai, donc il s'est rien passé. Je pense qu'il n'y a rien à retenir de positif là-dedans, à part que, comme on disait, c'est humain. J'ai réagi, j'aurais pas dû réagir. Vous parlez de self-control. J'aurais peut-être pas dû réagir, mais j'étais très surpris sur le moment. Donc, en fait, j'étais pas préparé à ça.
Ça se passe en une fraction de seconde.
Tu n'as pas l'impression que s'il n'y avait pas eu d'autres antécédents auparavant, ce serait plus facilement passé. Parce que c'était un peu coutumé du fait. Pas des bagarres sur le terrain. Mais je me rappelle d'une histoire avec un petit ramasseur de balles où vous vous êtes pris la tête il y a quelques temps.
Laquelle? Je ne sais plus. Je me dis, il faut citer des choses.
Je suis sûr que c'est lui.
Oui, je lisais ça tout à l'heure.
On va laisser Christophe retrouver cette version d'histoire. Attention, parce que je voudrais juste dire qu'on reçoit pas Benoît Paire. Hein. C'est Corentin Moutet qui est avec nous, les copains. Moi, je voudrais vous faire écouter quelque chose pour partir sur un autre sujet. Écoutez ça et dites-moi à quoi ça vous fait penser, Corentin Moutet. Écoutez ce son, Corentin.
Je suis dans l'impasse, je veux pas mourir dans ce traquenard. Et dans la pièce, moi je suis tout seul perdu dans le noir. Je suis dans l'impasse, je veux pas mourir dans ce traquenard. Et dans la pièce, moi je suis tout seul perdu dans le noir.
Moi j'aime beaucoup, et sachez, chers auditeurs, c'est Corentin Moutet qui rappe. Donc, d'ailleurs, Stephen, t'avais une question sur
ouais, bah,
sur ça, parce que hier soir, t'as écouté, tu m'as dit,
ouais,
j'ai écouté beaucoup de chansons.
Je suis allé voir notamment les clips. Alors, je veux pas me prendre pour Olivier Cachin ou Mehdi Maizi, qui sont des chroniqueurs de rap. Mais j'ai trouvé que toutes tes chansons, tous tes clips, c'était un petit peu des chansons un peu tristes, un peu sombres, et que ça manquait un peu de. Alors, est-ce que c'est le reflet de toi, de ta vie, de.
Bah c'était pendant le confinement, après j'ai arrêté, mais pendant le confinement c'est vrai que c'était pas, enfin c'était une période où moi j'étais tout seul tout le temps pendant un mois et demi, donc ouais c'était ce qui ressortait. En vrai moi j'avais pris ça pour comme une thérapie, donc souvent dans les thérapies c'est pas le plus lumineux qui ressort, donc
mais tu chantes
donc,
depuis
voilà.
Tout petit?
Non, pas du
c'est
tout.
T'es venu comme ça? C'est
ouais j'ai c'est bah, okay. Pendant le confinement c'est tous créer des nouvelles passions, hein.
Tu fais des sons aussi?
J'essaie, ouais.
Mais c'était quoi qui t'a intéressé au départ, l'écriture?
Ouais, moi j'ai toujours écouté beaucoup de rap et c'était vraiment ouais. L'écriture, de voir si je pouvais réussir à allier la technique, le sens et puis vraiment ce qui me représentait. Donc
c'est bien,
c'était
hein.
Marrant, c'était sympa. Super. À faire.
Ouais. Bravo. L'équipe et tout.
Ah, okay. Bravo. Hein. Si on peut réécouter un petit morceau avant la fin.
On va réécouter juste après. Une fois qu'on dira.
Un gros fan de rap, toi.
Mais si,
au revoir à Corentin.
Génération non plus.
On réécoutera.
C'est ton âge que j'aime pas le rap.
Mais moi, je trouve sincèrement qu'il y a quelque chose dont tu pourrais poursuivre dans cette voie. Mais continue le tennis. Parce qu'on va parler de cette année avec l'US Open, qui s'est très bien déroulé pour toi, où tu bats Wawrinka, où tu bats Van der Zandschulp.
Ouais.
Alors, il y a un problème. Je l'ai bien dit ou pas, Corentin?
Ouais, je crois.
Merci. Kachin, c'est bon, je l'ai bien dit aussi.
Kachin.
Et
ah, justement, c'est face à Kachin qu'il y a eu cette histoire avec le petit ramasseur.
Ouais.
Cachin, c'est vrai, Cachin. Tu t'en rappelles?
Non, pas du tout.
Tu t'en rappelles pas?
Non,
alors, les journalistes ont écrit des trucs.
Arrête de l'embêter, oui.
Mais
les journalistes l'ont dit, ça
va être fait. Quand
non, mais il y a eu plein de papiers partout. Tu t'adresses à lui.
Non, mais après, c'est
lui qui te donne la balle.
Des défauts,
il
oui, voilà.
Faut que je me mette tout nu pour que tu me donnes la balle.
Tu lui dis.
Ah ouais?
Non? C'est drôle, ça.
Tu as raison, c'est drôle, oui.
Et après, il y a eu cette défaite en 8e de finale, mais c'est la première fois que tu allais en 8e de finale dans un grand chelem par Casper Ruud, qui est allé jusqu'en finale, évidemment, on s'en souvient, c'était il y a quelques semaines. Est-ce que, juste sur ce parcours, tu peux dire que ta saison est réussie?
Non, vraiment pas. Je pense que le tournoi que je gagne après, justement, l'US Open, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire, enchaîner, avec la fatigue, avec le décalage horaire, tout ça. Et je suis bien plus, pas fier, parce que je suis aussi fier de mon US Open, mais je suis fier d'avoir gagné ce Challenger après, de revenir dans des conditions où personne ne regardait les matchs, j'étais tout seul sur le terrain. Donc voilà, je pense que non, je suis content depuis Roland Garros. Depuis Roland Garros, je trouve que j'arrive à bien faire les choses et que
Roland Garros voilà, où tu bats au premier tour une nouvelle fois Wawrinka, il doit pas beaucoup t'apprécier. Hein. Oh non, encore Corentin Moutet au premier tour. Battu également, tu as été battu par Rafael Nadal, mais ça, hein,
on
difficile de t'en vouloir. C'est vrai que c'est une saison où on a la sensation que et on met de côté évidemment ce qui s'est passé cette semaine, mais on a la sensation qu'il y a une vraie progression. Est-ce que toi aussi tu le sens? C'est-à-dire que tu sens que bah tu vas être beaucoup plus attendu maintenant.
Ouais.
Pas forcément.
Je sais pas en fait s'ils vont m'attendre, mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à enchaîner comme ça. J'avais eu beaucoup de mal à jouer des tournois, à m'entraîner tous les jours. J'avais pas mal de pépins physiques, donc à chaque fois on devait faire autour de ça. Et c'est vrai que depuis les préparations de Roland Garros, j'ai raté aucun entraînement à cause de ça, raté aucun tournoi. Et c'était vraiment l'objectif principal parce que je sentais que je jouais bien, mais j'avais cette frustration de me dire ouais, mais j'arrive pas à enchaîner. Je dois toujours prendre du repos pour reposer les douleurs et tout, et là j'ai réussi à le faire, donc je suis vraiment content qu'on trouve l'équilibre petit à petit, de pas trop s'entraîner,
mais attendre. Mais est-ce que tu sens le respect chez les autres maintenant, chez les autres joueurs?
Bah souvent sur le circuit ça marche comme ça, quand tu les bats une fois ils disent voilà, bonjour, ouais. Alors qu'avant
pas chez le Bulgare.
Non mais c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui tu sens que le regard des autres joueurs a changé par rapport à toi?
Non mais t'es plus accepté en fait quand t'es
oui,
dans le vestiaire,
ça, oui.
Mais après, je sais pas s'ils ont plus peur.
Après, les mecs, premier tour, c'est pas un bon tirage quand t'as monté en premier tour de Grand Chelem ou de Master Smith.
Toi, le spécialiste, pourquoi?
Bah, tu as joué, toi?
Pourquoi c'est pas
premier tour?
Non. Mais parce que c'est, Il a une main, il a une main incroyable, il est gaucher, il fait des coups qui sortent de l'ordinaire, il est pénible à jouer, Corentin, c'est une petite mobilette, donc physiquement il court partout, il ramène des balles, il fait des points hallucinants, c'est pas un bon tirage, Corentin Moutet. Alors,
gros cardio.
Peut-être que quand il montera, il sera top 50, on espère qu'il sera tête de série, j'espère que lui il prendra pas un garçon un peu relou à jouer, mais c'est quoi d'ailleurs l'objectif au classement, c'est d'être dans les 50, 40, ouais, 30.
Je sais pas si je vais réussir, mais c'est de finir l'année dans les 50. J'aimerais bien, c'est l'objectif que je m'étais donné. Et puis après, si j'y arrive pas, j'essaierai l'année prochaine. Mais en tout cas, essayer de bien finir dans les 50 pour pouvoir avoir un planning plus facile à faire l'année prochaine.
Et pour y arriver, c'est quoi? C'est des tournois gagnés? C'est d'enchaîner les victoires?
Beaucoup de matchs. Il doit rester 4 tournois, je pense. Ouais. Donc ça doit être, je sais pas, 150-200 points, un truc comme ça.
Quand t'es top 50, après c'est fini les challengers. Après,
ouais,
c'est
ça. Ouais. Tu joues
top 50, tu chantes.
Ouais. Ouais. Et financièrement parlant, t'as un gap quand tu passes justement à certains classements, ou alors c'est en fonction des résultats que tu fais, notamment dans les grands chelems, où là les prize money sont vachement plus importants.
Ça dépend des grands chelems, ça dépend à ton âge aussi par rapport à ton classement, parce que souvent les sponsors sont, si jamais t'es 200e mondial à 16 ans ou à 23 ans, tu gagnes plus, bah, 16 ans, je pense que c'est
les mecs parient plus sur toi que
à Montréal, ouais. Donc il y a ça, et puis évidemment les grands chelems, et puis ça dépend aussi de qui tu t'entoures, en fait, tes frais, parce qu'en fait nous on gagne beaucoup d'argent, mais on a énormément de frais vu que tout est pris par le joueur, donc il y a ça à prendre en compte. Beaucoup de personnes qui regardent sont piégées par ça, et beaucoup de joueurs aussi peuvent être piégés, où tu gagnes 200 000 euros, tu te dis c'est bon, je peux vivre. Et en fait, tu te rends compte que les dépenses, elles sont énormes, parce que tu voyages toutes les semaines.
Tu payes ton entraîneur.
Tu voyages toutes les semaines, tu voyages avec ton entraîneur.
Et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, pour payer la location de ce studio aujourd'hui. Merci d'ailleurs, Corentin, de nous permettre ça. On va terminer, avec Corentin, oui.
On va terminer, donc c'est la dernière question.
Je pense, oui.
D'accord. Non, en fait.
Elle est bonne ou pas?
Je sais pas si elle est bonne.
Bon, bah, vas-y.
Non, en fait, je veux dire que je suis très content, parce que Corentin, on avait tous cette image de, parce qu'on le connaissait pas, en fait, dans les médias. Je sais pas, il s'exprime pas beaucoup.
On le voit jouer, quand même.
Oui, mais on le voit jouer, mais t'avais ce regard de l'extérieur.
Il ne s'exprime pas beaucoup. En tout cas, ouais. Ça fait plaisir de l'envoyer.
Ouais, justement. Okay. Et les gens jugent Corentin Moutet sur son niveau tennistique, j'espère, et surtout pour ce qui se passe sur le terrain. Et je trouve que l'image est pas bonne. Et je suis très content qu'il soit venu ici dans notre studio pour justement l'apprendre, l'écouter parler, comprendre que c'est un garçon qui sait parler correctement, qui s'exprime bien, et que c'est une bonne personne, et qu'il faut pas juger, s'arrêter à ce qui se passe sur le court. Parce que moi aussi, j'ai souffert de ça. On s'est beaucoup arrêté sur mon comportement sur le terrain en disant que j'étais un gros connard, et que finalement, je pense être un bon mec.
Mais ça t'a pas empêché d'être quand même un connard.
Je je regardais jouer de l'extérieur, j'ai jamais eu une mauvaise image de lui. Au contraire, une image de combattant, de guerrier. Et c'est vrai, quand tu le vois jouer, ce mec, il va dans des retranchements qui font plaisir, parce que c'est ce qu'on aime dans le sport.
Et moi, j'ai jamais eu de mauvaise image.
Réunir Benoît Paire et Mario Martoli. J'aimerais bien qu'ils discutent tous les deux. Je sais pas si ça se finira comme le dernier match de Corentin. Mais ce serait pas ça.
C'est mieux
que la
rabat.
On
coupera
au montage.
Oui, David, 10 secondes, s'il te plaît.
Il va falloir en couper d'autres.
C'est très simple. Moi, si Corentin devient le McEnroe français, ça me va super, voilà.
Ils sont gauchers tous les deux, déjà, c'est le point commun.
Mais des gens avec du caractère, c'est toujours plaisant, surtout dans le tennis. Enfin,
merci, Corentin. On va l'écouter, laisse-moi faire cette émission.
Est-ce que tu veux que je le sors?
Ah ouais, sors-le moi, il est insupportable. Mais moi ici, fais le conducteur dès le jeudi, viens.
Le problème, c'est qu'il va te demander.
Oui, mon Denis.
C'est pas parce que 3 jours dans la semaine.
Ça fait 4 fois que je te dis qu'on va réécouter. Donc fais-moi confiance. Je suis en train de dire au revoir. Toujours un truc à dire. Merci, Corentin.
Merci d'être venu.
Tu vois, les pétages de plomb, je peux lui sauter dessus, là. Merci. Et on te souhaite une belle fin de saison, et on suivra notamment ton parcours pour la saison prochaine. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Et vous savez quoi?
On peut écouter ou pas?
C'est une surprise. Il n'est pas impossible qu'on écoute, pour se dire au revoir, un des morceaux de Corentin Moutet qui est venu, car on aime l'entendre parler, mais aussi chanter. Et nous, on revient dans quelques instants. Corentin Moutet, merci encore.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules avec David Douillet, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet. À partir de 11h, le bras de fer des GG, votre nouvelle séquence dans cette émission depuis le début de la saison. Nous allons parler de l'engagement politique des sportifs et évidemment, ça fera écho à cette histoire cette semaine où Neymar a apporté son soutien à Jair Bolsonaro juste avant les élections au Brésil. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
Quelques informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le geste fort des footballeurs iraniens pour protester contre la répression dans leur pays. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe,
on s'en fout pas, je pense que David non plus.
David Douillet, je vais demander quand même au cas où.
Bah non, évidemment, on en a parlé tout à l'heure.
Denis Charvet.
Non, évidemment.
Ok, Stephen Brun.
Non, on est obligé d'écouter.
Les joueurs de l'équipe d'Iran ont porté une parka noire sans logo ni blason durant leur hymne national mardi en Autriche avant un match amical contre le Sénégal en cachant leur maillot, une manière de protester contre la répression en cours dans leur pays. Des milliers de personnes manifestent, vous le savez certainement, depuis le 14 septembre et la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée à Téhéran par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire imposé par la République islamique d'Iran. Cette dernière a été accusée de porter son voile de manière inapproprié. Cet engagement des footballeurs iraniens qui participeront d'ailleurs à la Coupe du Monde. David, tu en penses quoi?
Bah, moi, je trouve que c'est extrêmement courageux compte tenu dans le contexte dans lequel ils vivent dans leur pays et je trouve. Enfin, moi, j'ai un message qui a été publié par un des joueurs où il dit la punition ultime est d'être expulsé de l'équipe nationale, ce qui est un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux d'une femme iranienne, c'est ce qu'il a écrit. Je trouve que, voilà, tout est dit. Et quand les de prestigieux représentants d'un pays à travers un sport qui est un des plus populaires au monde sont capables de prendre cette position face à des dictateurs religieux, eh bien voilà, on a fait une grande avancée. On parle souvent, on va en parler tout à l'heure, on reproche souvent aux athlètes de rien dire, de pas dire, de se mettre en retrait, etc., d'être complice de ceci, de cela, de là. Là, voilà, le bel exemple pour l'avenir de la femme dans le monde du sport et l'avenir de la femme tout court dans le monde. Je trouve que, voilà, c'est un message fantastique qu'il faut relayer à mort.
D'ailleurs, sachez que le collectif de supportrices iraniennes Open Stadium a demandé cette semaine à la FIFA d'exclure l'Iran de la prochaine Coupe du Monde en raison de la violation continue des droits de l'homme.
Alors là, je trouve que ce serait une bêtise parce que si justement l'équipe iranienne entend faire passer des messages, la Coupe du Monde sera un formidable moyen, un formidable média pour justement dénoncer ce qui se passe en Iran. C'est vrai qu'il y a des hommes, enfin des sportifs qui prennent position dans des débats sociétaux, des débats politiques. On devait évoquer l'histoire du maillot des Danois.
On en parlera
là,
demain.
Là, c'est au bas du curseur. Là, en revanche, ce que font les footballeurs iraniens, c'est tout en haut. Parce que là, ils risquent leur vie. Ils risquent la prison en faisant ça. Donc là, franchement, messieurs, chapeau. Chapeau bas.
Chapeau, parfait. Deuxième information dans le zapping des GG. Une histoire un peu plus légère, évidemment. Même si c'est une défaite pour notre équipe de France. C'est les filles du basket qui s'inclinent en quart de finale du Mondial. On s'en fout pas, les copains. Christophe Cessieux.
Je vais laisser.
Okay. Quand je dis je vais laisser, c'est qu'on s'en fout. David Douillet.
Moi, je laisse aussi. Ouais.
Tu laisses aussi.
Tu laisses aussi.
Je vais prendre.
Tu vas prendre pour la 6e édition consécutive en Coupe du Monde. Le parcours de l'équipe de France s'arrête en quart de finale. C'était cette semaine où les Bleus se sont inclinés contre la Chine, qui viennent de perdre d'ailleurs en demi-finale face aux États-Unis. Elles avaient perdu et elles ont perdu 85-71. Steve, pourquoi on s'arrête toujours en quart?
Pourquoi ça arrête toujours en quart? Écoute, là, c'était une compétition un peu particulière pour nous, parce que toutes les leaders étaient absentes. Sandrine Gruda, Andy Miem, Marine Johannes qui s'est pété la veille de la compétition. C'était un effectif très jeune. Et l'objectif quart de finale a été atteint. Le problème, c'est qu'on se met une balle dans le pied en poule parce que tu termines quatrième et donc tu croises avec un premier ou un deuxième de l'autre poule et tu joues les Chinoises qui sont la deuxième meilleure équipe au monde actuellement et pour l'instant, on n'est pas au niveau, surtout avec cet effectif-là. Donc, écoute, si j'ai envie de voir du positif, j'ai envie de dire c'est de bon augure pour la suite quand on va récupérer les taulières pour l'Euro l'année prochaine et JO 2024. je peux voir le négatif en disant qu'encore une fois, eh ben, on s'arrête en quart de finale et qu'on n'a pas existé pour moi face aux Chinoises.
On voit quoi, toi? Tu verrais plus que.
Moi, j'ai envie d'aller dans le positif un petit peu parce qu'on a vu des joueuses émergentes comme Marine Fotou un peu prendre le lead, Gabby Williams qui a été fantastique. Et puis pour finir sur cette compétition un peu plus globalement, on s'aperçoit que les Américaines sont une nouvelle fois championnes du monde. Elles ont battu les Chinoises de plus de 25 points. Les Chinoises qui sont une très bonne équipe. On s'aperçoit que encore plus chez les femmes, l'équipe américaine est imbattable.
Ouais, exactement.
Imbattable.
Et ben voilà, merci beaucoup, Stephen.
J'espère que j'étais complet.
Oh, t'as été t'as été très bon, mais on n'en fera pas 20 minutes non plus.
Non. Ouais, Denis voulait savoir si on pouvait écouter.
Le rap, de Corentin. Oui, Denis, on va te faire une petite bande-son, et c'est vrai que c'était très bon, et ne t'inquiète pas, tu vas repartir avec.
Parce qu'en coulisses, il lui a demandé un vinyle, il lui a tout gratté, Denis. Un vinyle, place pour Bercy.
Des places pour Roland.
Plus, c'est honteux,
et tu as raison de le préciser par rapport à cette histoire en Iran. On parlera demain du maillot danois, mon cher Christophe. On sera avec Marion Bartoli, Marc Madio et avec Simon Dutin. On revient dans quelques instants, les copains, le bras de fer des GG autour de soutien de Neymar, son soutien apporté à Jair Bolsonaro. Est-ce la place des sportifs? J'ai une team pour, une team contre. Ce sera un 2-2. Ça va Castagner. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.